France Culture.
Bonjour Book Club, bonjour Marine Lafon, et bonjour Alexis Vittoretti. Merci Alexis pour ces photos de paysannes, ces portraits de femmes d'une dignité, d'une puissance incroyable. J'aime le silence qui se dégage de ces femmes et en même temps toutes les traces du passé.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Elles sont des tantes, des grands-mères, des mères, des voisines, des cousines. Il se peut même que la période des congés de fin d'année fasse qu'on leur rende visite plus que d'habitude. Les paysannes que photographie Alexis Vittoretti pendant plus de 10 ans dans la cuisine de leur ferme, d'abord en Ardèche, puis dans le Morbihan, en Vendée, dans l'Yonne, dans l'Allier ou en Moselle, m'avaient incroyablement émue quand je les avais découvertes dans le journal Le Monde, probablement parce que j'y reconnaissais des femmes de ma propre famille et que j'aime. Les éditions Ulmer ont la bonne idée d'en faire un livre au milieu duquel se glisse un texte de Marie-Hélène Lafont titré justement « Je les reconnais ». Le photographe et l'écrivaine sont nos invités aujourd'hui. Comme chaque mardi vers 15h50, la journaliste Nicole Vulser éclaire pour nous un aspect économique du monde des livres. Dernier jour de l'année, elle nous parle des librairies françaises installées à l'étranger qui vont pas très bien. Les expatriés achèteraient beaucoup sur les plateformes. Et on termine évidemment l'émission en jouant avec vous au grand jeu des pages musicales. Nous voilà ensemble pour une heure, la radio comme au coin du feu. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Alexis Vittoretti.
Bonjour.
Votre livre Paysanne a paru aux éditions Ulmer. Vous êtes photographe, soyez le bienvenu dans le Book Club. On va parler de ce livre et bonjour à vous Marie-Hélène Lafont.
Bonjour.
Vous êtes romancière, essayiste, le monde paysan nourrit depuis longtemps vos textes. Vous avez écrit justement un petit texte qui est glissé au cœur du livre de photographie dont nous parlons aujourd'hui. Par ailleurs, la photographie vous a aussi toujours beaucoup intéressé, donc on est vraiment ravis de vous réunir tous les deux autour de la table du Book Club. Soyez la bienvenue. C'est votre deuxième Book Club ?
Peut-être même troisième.
Ok, on dit jamais 3 sans 4. Soyez les bienvenus tous les deux. Ici, tout commence par un questionnaire lecture. Donc on fait le portrait de nos invités en évoquant leur rapport au livre ou à la lecture. Alexis Vittoretti, est-ce que vous vous souvenez où, quand, dans quel paysage et peut-être près de qui vous avez appris à lire ?
Oh bah c'était à l'école primaire, classe de CP certainement, où oui, j'ai des petits souvenirs de réciter... réciter des choses, répéter pour apprendre.
Bon souvenir ?
Ou pas mauvais, en tout cas. L'école est pas un bon souvenir pour ma part, mais en tout cas, cette école-là, c'est tellement, tellement lointain et tellement naïf que c'est pas un mauvais souvenir. Mais par contre, en effet, ça a toujours été laborieux. Ouais.
Le rapport à la lecture, vous voulez dire ?
Le rapport à la lecture, ouais, ça j'ai toujours été plus lent à lire et donc complexé vis-à-vis de ça, à accélérer ma lecture pour finir en même temps que les autres. Ouais.
Est-ce qu'il y avait des livres chez vous ? Est-ce qu'il y avait des livres autour de vous ?
Non, c'était il y avait les tout l'univers, voilà. Là, je pense qui a habité
beaucoup de maisons
et c'était à peu près la seule chose. Non, c'était pas. Un endroit où le rapport au livre s'est construit. Ouais.
Est-ce qu'il s'est construit pour vous ? À quel endroit et à quel moment ?
Alors, c'est... Ouais, c'est plus tard, c'est arrivé à l'âge... après l'adolescence, quoi. Une fois que j'ai quitté le berceau familial, que j'ai construit un rapport social amical, et du coup... des discussions avec notamment un ami, d'abord sur le cinéma et ensuite la lecture. Et c'est lui qui est toujours gros lecteur, qui m'a emmené des livres qui m'ont intéressé parce que nos discussions m'intéressaient. Mmh. Ouais.
C'est par cette médiation-là ouais. que vous êtes arrivé au livre. Ouais. Il vous parlait de quoi, par exemple ?
De ses lectures. Et en fait, c'était pas de la jalousie, pas du tout, c'était une envie de partager,
de le rejoindre sur ce terrain-là,
parce que il a une manière de parler de ses lectures qui est très intelligente. C'est un ami que je respecte beaucoup et du coup j'avais envie de participer pleinement à l'échange que je pouvais construire avec lui en lisant aussi à mon tour. Pleinement. Et du coup, je me suis mis à lire et j'ai trouvé des lectures qui me conviennent et j'adore lire. Et aujourd'hui, alors que j'ai jamais lu de bouquin en plus de 20 ans, j'en lis plusieurs par an, ce qui est incroyable pour ma part.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que oui, vous avez quoi comme rapport à la lecture ? Est-ce que ça reste toujours par la médiation d'amis ? Est-ce que ça rentre en résonance avec votre travail de photographe ? Comment est-ce que vous choisissez les textes que vous lisez aujourd'hui ?
Alors, la photographie n'a aucun lien avec mes lectures. Ça peut se rejoindre sur l'aspect social de mes lectures, mais en tout cas, je ne lis pas des choses qui vont vers ma photographie.
Ni inversement. Vos sujets de photographie ne vous amènent pas à des territoires littéraires.
Par contre, j'aime bien aller, et ça c'est quelque chose de relativement récent, aller chez un libraire qui n'est pas très loin de chez moi et lui demander des conseils. Ça c'est un nouveau jeu que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Et je trouve ça très chouette parce que je me suis aperçu qu'en fait les libraires c'était des gens passionnés. Je ne les connaissais pas et de très bons conseils à chaque fois. Et du coup, ces lectures, en fait, c'est plus un passe-temps. C'est un moment dans le métro, dans le train. Je lis pas chez moi, par exemple. Je fais autre chose chez moi. J'écoute de la musique, mais je lis pas. Par contre, sur des temps où il faut que le temps passe vite, je trouve que la lecture, elle s'installe bien, ouais.
On va parler tout à l'heure de votre livre Paysanne, c'est un livre de photographie en très grande partie. On va évoquer évidemment le texte de Marie-Hélène Lafont, mais est-ce que vous avez plaisir à regarder des livres de photographie ? Est-ce que ce sont des objets qui vous intéressent ?
Certains, oui. Je ne suis pas passionné par le livre, par l'objet. Je suis passionné par ce qu'il y a dedans, parce que le livre de photographie, contrairement au livre en général, c'est vraiment un objet particulier. C'est quelque chose que l'on range, que l'on protège dans une bibliothèque. Alors, est-ce que c'est le fait de ne jamais avoir été entouré de livres, etc. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai jamais construit un rapport émotionnel au livre. Même si j'aime beaucoup le livre photographique parce qu'il est important dans la construction photographique. Et ça, on me l'a très bien appris et je l'ai très bien compris. Mais je ne dépense pas beaucoup d'argent dans les livres photographiques.
D'autant qu'ils sont souvent un petit peu plus chers que les autres.
Ils sont un peu plus chers, ouais.
Mais parce qu'ils sont plus chers à fabriquer.
Parce que les papiers sont différents. Le temps donné à construire toute la maquette, à penser, en fait, moi, c'est en ça aussi que j'aime beaucoup la photographie. C'est qu'elle se déploie autant dans une expo que sur un super diaporama vidéo, sonore, très bien construit, que dans un livre où on raconte le même sujet, peut-être raconté trois fois.
Avec des médiums différents.
Exactement. Et donc le livre photographique, oui, il est extrêmement important. Maintenant, je suis désolé pour tous les éditeurs de livres photo, mais moi, je n'ai jamais développé de passion franche pour cet objet-là.
Il y en a d'autres. D'autres lectrices. Ouais. Juste un tout petit crochet, évidemment on va y revenir tout à l'heure, mais c'est un livre qui est fait à partir de cette série Paysanne. Est-ce que pour vous, ces 10 ans de photographie, regroupés dans un livre quand même, avec une potentialité de circulation que n'a pas une exposition dans des grandes villes, ça a quand même du sens à cet endroit-là, Alexis Vettoretti ?
J'ai commencé ce travail-là parce que je voulais travailler sur ce monde paysan, ces ouvriers de la terre. En parallèle de ce projet-là, quand je l'ai démarré, je faisais un travail sur les derniers mineurs de charbon en Roumanie, qui est le mineur de charbon, qui est quand même l'essence même du monde ouvrier. Et bien évidemment que rapidement, ce sujet-là sur les paysannes, je l'ai de suite envisagé comme un livre, quoi. Il fallait que ces femmes-là restent.
Mais dans un rapport à quoi ? À l'histoire ? Au sens de l'écriture de l'histoire ? De la mémoire ?
À ce qu'elles restent.
Ouais.
Voilà, encore une fois, quel nombre de personnes vont avoir ce livre entre les mains, j'en sais rien, pas tant que ça. Mais il y avait cette volonté, peut-être cette naïveté, encore une fois, de dire que cet objet-là, il sera toujours là, quoi.
La question de, justement, garder mémoire, garder trace d'un monde paysan, de corps paysan, de figures paysannes qui resteraient, ça existe évidemment aussi en littérature, Marie-Hélène Lafont, donc ça existe dans l'œuvre littéraire que vous avez construite depuis de nombreuses années, mais est-ce que ça, comme ça, a été important de le retrouver dans des lectures, dans votre parcours de lectrice ?
Oui, bien sûr. Ça a été important en termes d'autorisation. Ça a été important de lire... juste au moment où je commençais à écrire, au milieu des années 90, une nouvelle de Charles Ferdinand Ramu, où cette nouvelle commence avec les gestes d'une paysanne qui fane dans son pré. Et 3-4 phrases où Ferdinand Ramu incarne exactement avec un sens du rythme incroyablement précis, exactement le geste
agricole,
du corps, voilà, le geste du corps de la paysanne avec son outil qui ratèle dans un pré mangé de soleil en Suisse, voilà. Et bien, quand j'ai lu ça, je me suis dit, il faudrait faire ça, voilà. Et voilà, je pense à elle, vous voyez, quand vous me dites, à cette figure, c'est vraiment une figure tutélaire, c'est une figure de la jeunesse aussi, hein. J'y pense en contraste, pas tant avec les photos qui sont dans le livre dont il est question aujourd'hui. Et c'est le geste du travail.
Donc il faudrait faire ça, c'est-à-dire que vous, désirant écrire, ce serait un projet littéraire que de rendre par les mots ces gestes et cette rythmique.
Oui, incarner, donner chair à ces gestes et à cette rythmique, justement parce que je suis bien placée pour savoir, l'ayant inscrite moi-même, les ayant pratiqué ces gestes, ayant inscrit moi-même cette rythmique dans mon corps, qu'elle est vouée à la disparition. Et donc, la dimension testimoniale, elle est présente. Elle n'épuise pas le geste d'écriture. Hein.
Non.
Elle n'épuise pas non plus le geste photographique. Mais elle est présente.
Est-ce qu'il y a un autre texte que vous voudriez évoquer comme ça, comme une sorte de mini-bibliothèque de départ à ce book club?
Oui, c'est la cocadrille de John Berger. Voilà, John Berger, anglais, installé en Haute-Savoie, si je ne m'abuse, et travaillant avec les paysans du village dans lequel il s'est installé, étranger aussi par la langue, voilà, et faisant sa place, trouvant sa place, et incarnant dans ses livres, dans celui-ci notamment, il y en a beaucoup d'autres, mais dans celui-ci, incarnant ses figures paysannes et la cocadrille, et une poignée de femmes qui a vécu avec ses deux frères, dans une ferme isolée, qui est un personnage à tous les sens du terme, enfin un immense personnage et en même temps un destin.
On va parler des enjeux d'image, de prise de vue, de représentation photographique, mais il y aurait quoi comme enjeu littéraire à l'écriture de figures paysannes ou à l'écriture du monde paysan, Marie-Hélène Lafont? Est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques?
La justesse.
Mais ça, ce serait tout le temps, je veux dire. Pourquoi est-ce qu'il faudrait être plus animé par un souci de justesse quand il s'agit de corps paysans que quand il s'agit de corps bourgeois du 19e dans le Paris, quoi?
Parce qu'ils sont plus fragiles. Et parce qu'ils sont moins souvent exposés et représentés. Voilà. Plus fragiles, plus fugaces. On n'aura pas de photos, on n'aura pas de tableaux, ou alors on aura toujours les mêmes. On aura une image, on aura un stéréotype. On aura l'Angélus de Millet que j'ai détesté pendant très longtemps, avant de me rendre compte que Millet avait peint et dessiné tout à fait autre chose. Mais vous voyez, alors peut-être est-ce un point de vue trop sentimental.
C'est pour répondre à la rareté, du coup? Parce que c'est rare, alors il faut être très juste.
Oui, il faut être très juste, parce que c'est rare, et parce que c'est fragile, encore une fois, parce que... En général, le regard porté sur ces gestes et sur ces milieux et sur ces lieux, il vient de l'extérieur, il vient pas du dedans. Si on est dedans, en général, on n'a pas les moyens d'exprimer le regard et de l'inscrire. Je suis bien placée pour savoir aussi, toute cette dialectique de l'entrée, sortir, en être, ne plus en être encore, avec quel corps en est-on encore?
Et justement, est-ce que vous diriez, et bon voilà, c'est pas un book club qui est consacré à votre œuvre littéraire, on en fera et on en a fait, mais... peut-être puisque vous parlez de entrer et sortir et que ce sera tout à l'heure la manière dont on va entrer dans votre série puisqu'il est tellement question des portes à Alexis Vettoretti, mais ça veut dire que pour vous, pour écrire ce monde paysan, il a fallu en sortir, Marie-Hélène Lafont?
Oui.
Ou c'est parce que vous en êtes sortie que vous avez pu l'écrire?
Je le dirai comme vous venez de le dire là, avec cette subordonnée de cause. C'est parce que vous en êtes sortie que vous avez pu l'écrire. Je n'en fais pas une loi, hein, mais en ce qui me concerne, cette distance était absolument indispensable.
Et c'est ça qui a aussi permis l'écart, quoi. On va parler de votre livre Paysanne, Alexis Vettoretti, juste après cette chanson qui s'appelle Katie Creole. C'est une chanson traditionnelle américaine qui date de l'époque de la guerre de sécession, qui est elle-même fondée sur une chanson folklorique. Et on y dépeint une figure de femme vagabonde à l'esprit libre. Et ici, elle est interprétée par une autre femme vagabonde, aussi à l'esprit libre, qui s'appelle Karen Dalton. Son répertoire chanté a été sorti de l'oubli il y a une petite dizaine d'années. Elle est morte en 1993 du sida. C'était la chanteuse préférée de Bob Dylan, il disait ça. Mais elle n'a jamais trouvé une place de son vivant dans l'industrie musicale. Donc elle connaît, comme pas mal d'artistes, ce qu'on appelle un succès posthume. On l'écoute ici avec sa reprise de Katie Creole.
When I first came to called me the Roving Jewel. Now they've changed their tune, call me Katie Crew. Through the woods I'm going, through the boggy mire, straight way down the road till I come to my heart's desire. If I was where I would be, then I'd be where I am not. Here I am where I must be, where I would be I cannot. When I first came to town, they bought me drinks aplenty. Now they've changed their tune and hand me the bottles empty. If I was where I would be, then I'd be where I am not. Here I am where I must be, where I would be I.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Je reconnais les paysannes d'Alexis Vettoretti. Elles m'ont précédée à bâbord et à tribord. J'en descends. Leurs vies sont celles que je n'ai pas eues, celles que j'eusse vécues si j'étais née avant 1940. Avant la révolution mécanique qui, après la Seconde Guerre mondiale, détournera les filles de paysans de leur destinée atavique. C'est une vague de fond. C'est large et irrésistible. Ça monte depuis la fin du XIXe siècle. C'est historique, économique, sociologique. Ça s'appelle l'exode rural. Ça dépasse les hommes et les femmes et ça les emporte. Les filles ont été emportées. Elles sont parties. Les villes et leurs banlieues les ont avalées. Elles ont inventé d'autres vies ailleurs, loin des prés, des champs, des maisons de pierre et de bois, des bêtes, des tâches ancestrales et des saisons impérieuses. Les paysannes d'Alexis Vettoretti sont restées, ont tenu la place, travaillé à plein bras, habité les maisons, nourri les maisonnées, continué les lignées. Leur corps raconte cette histoire et il s'agirait d'entrer en leur matière sans les trahir. Voilà le tout début du texte, délicatement imprimé sur un feuillet fragile, on parlait de fragilité justement, et glissé au milieu de votre livre de photographie, Alexis Vettoretti. Il est signé par vous, Marie-Hélène Lafond. On n'a pas étonné au regard de tout votre travail littéraire et de votre parcours de vous trouver là. On est donc ravis de vous réunir autour de la table du Book Club pour évoquer Paysanne, ce livre de photographie paru aux éditions Ulmer. Je disais tout à l'heure que l'idée de entrer et sortir et d'être autorisé à entrer est un motif important de votre série, Alexis Vettoretti, au point qu'on est accueilli dans la série, presque, pas tout à fait, mais par une porte, et qu'elle est fermée. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de ces portes ?
C'est pas important de parler de ces portes, c'est encore une fois, là, c'est la construction de comment on emmène, c'est un editing, comment on emmène la première image, puis ensuite, voilà, comment on raconte l'histoire. Parce que j'ai introduit ce travail-là par un court texte, il fallait que derrière je mette cette photographie-là précisément, parce que c'est mon cheminement photographique, c'est d'aller toquer aux portes. Et je me suis retrouvé, je ne sais combien de fois, face à des portes fermées, parce qu'elles sont toutes fermées, même l'été. L'été, parce qu'il faut garder le frais à l'intérieur, et l'hiver, le chaud à l'intérieur. Donc, les portes sont toujours fermées. En tout cas, dans les milieux dans lesquels je vais, les portes sont toujours fermées. On n'accueille pas forcément, on ne reçoit pas, mais on veut bien laisser rentrer, quoi.
Donc elles sont importantes, ces portes.
Oui, elles sont importantes, ouais, bien sûr. Ouais, c'est finalement ces portes-là qui
ça
sont
dit
le
beaucoup
premier.
De choses, en fait.
Oui, oui, c'est sûr. Ouais, j'en ai même développé une sorte de capacité à savoir si je frappais à la bonne porte ou pas. Donc voilà, il y a des petites choses qui font que est-ce que je vais faire chou blanc ou pas. Mais
puisque vous parlez de ce premier texte et qui raconte la première photo et le ouais. début de cette série qui va s'appeler Paysanne, peut-être on peut le raconter aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'une première prise de vue va augurer le développement d'un travail qui va vous prendre des années?
Bah parce que c'était une recherche, la première image, elle n'avait pas volonté de déboucher sur une série, elle avait simplement volonté de faire ce portrait-là parce qu'il était possible. En tout cas, il a été demandé, il a été accepté, faisons-le.
Vous nous racontez ?
Du coup, oui, c'était en 2013 et je suis dans mon village d'origine où je cherche à faire un travail à la chambre sur le monde paysan. À la chambre parce que j'adore cet outil, ce format, le 4-5, et sur le monde paysan parce que voilà, c'est les ouvriers de la terre et bêtement, je crois, quand je me suis construit photographiquement, que je suis sorti du coup de ma classe. On en parlait d'entrée et de sortir, voilà, je suis sorti de ma classe sociale d'origine en choisissant de faire des études de photographie et en devenant, avec l'espoir de devenir photographe. Malgré moi, dans ma production photographique, je me suis toujours rattaché au milieu ouvrier où mes parents étaient parce que je ne pouvais pas rompre de façon trop radicale.
Mais c'était malgré vous, du coup, ou c'était conscient dans cette impossible rupture ?
Non, je pense que c'était malgré moi. C'était, j'entretenais ce truc-là sans savoir. Il a fallu que les années passent et que je réfléchisse sur moi-même de pourquoi j'ai fait ça et comment je l'ai fait pour comprendre que, en fait, oui, quelque part, je me mentais à moi-même. Ce que je voulais, c'était peut-être autre chose. J'en sais rien. Je vais pas revenir en arrière sur. Sur est-ce que je me suis trompé ou pas, je crois pas. Mais en tout cas, il y avait la volonté de ne pas rompre radicalement. Ça, c'est, je pense aujourd'hui pouvoir le dire sincèrement. Et du coup, faire ce travail-là sur le monde paysan qui reste un monde d'ouvriers, ça peut être tout et n'importe quoi. Ce travail-là, il aurait pu être autre chose au final.
Bien sûr.
Voilà, il y a d'autres boulots qui se sont faits sur ce milieu social. Et qui sont très différents les uns des autres. Et quand j'ai rencontré cette femme et que j'ai fait son portrait, que j'ai développé le plan film et que je me suis retrouvé face à cette image, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir une série de ces femmes-là et que de ces femmes-là.
Qu'est-ce qu'elle vous disait, cette image ?
Moi, elle m'a ému, en tout cas. Alors, je suis le moins bien placé parce que je suis forcément ému, parce que moi j'ai la rencontre, j'ai la discussion, j'ai ces petits détails que personne n'a d'autre. Et c'est pour ça que l'editing est dangereux quand on est trop impliqué. C'est qu'on peut se tromper, on peut s'arrêter sur de l'émotionnel qui n'existe que pour moi, que pour le photographe.
L'editing, je fais juste une petite parenthèse, c'est vraiment le moment où on choisit et organise une série.
Ouais. Exactement, ouais. On élimine des images qui ne racontent pas ce qu'on veut raconter. Et donc, il fallait construire ça et quelque chose. Et cette femme, son récit aussi de vie, j'ai trouvé ça important de m'attarder sur elle parce que, bêtement, je suis né en 89, j'ai appris plein de choses à l'école et des dates importantes pour les femmes en France, etc. Mais je n'avais jamais intellectualisé, conscientisé le fait que ces femmes, elles m'entouraient encore. Les femmes qui sont nées à une époque où elles n'avaient ni le droit de travailler, ni le droit d'avoir un compte en banque, ni le droit de voter, je l'ai très très bien appris, la connaissance, je l'ai, conscientisé le fait que je ne l'avais pas. Donc en fait, quand je me suis aperçu de ça, je me suis dit qu'il fallait un petit peu que je me réveille moi aussi et que je m'attarde sur elles qui étaient les silencieuses au milieu des silencieux.
Vous parlez de récits de vie. Il se trouve que la radio dans laquelle on est aujourd'hui a fait beaucoup ce travail depuis des années d'enregistrer des récits de vie, notamment du monde paysan. On va écouter une expérience signée Sophia Marchesin. Elle fait entendre la voix d'Alberte.
Je ne suis plus celle qui faisait tout en temps et en heure parce que je ne peux pas. Voilà. Je me suis fixée déjà bien. Là. Cette année, j'ai un peu perdu mes forces, ce qui fait que tu ne peux pas faire tout ce que tu faisais ou le faire pareil, si vite, hein. Moi, j'aime toujours mes cuivres qui brillent. Je viens de les faire briller, mais avant, ils brillaient plus que ça. Les vitres faites, les rideaux propres. Mais ça, tu vois, il faut que je le laisse. Parce que pour déjà faire les cuivres sur la cheminée, il me faut un escabeau. Je n'ose plus monter sur une chaise, la peur de tomber. Et j'y monte pas. Hein. Il ne faut pas rester inactif. Parce que les rares fois où je... S'il fait trop mauvais, à part mes volailles, je ne sors pas, quoi. Eh bien, vos muscles, ils s'endorment. Mais moi, je ne veux pas... Non, je continue. Hein. Je m'oblige, disons.
C'est la voix d'Alberte, 95 ans, pour une expérience signée Sophia Marchesin. On a retenu cet extrait de documentaire Marie-Hélène Lafont parce qu'Alberte dit « Je me suffis ». Et dans votre texte, « Je les reconnais », vous dites cela, j'ai dans l'oreille un mot pour dire cette bataille, un mot qui siffle, un mot tenace, un verbe tenace, efflanqué et vaillant, se suffire. C'est quand même fou de retrouver ce mot-là de votre texte à ce reportage radio. Vous l'avez entendu en voyant les images d'Alexis Vettoretti ?
Je l'ai entendu en voyant les images d'Alexis Vettoretti et je l'ai entendu dans la vie.
Qu'est-ce que ça veut dire se suffire dans la voix de ces femmes-là ?
Ça veut dire tenir le plus longtemps possible. Rester dans une forme de dignité, même si, vu de l'extérieur, cette dignité peut paraître très relative, très écrasée, plus que modeste. Rester dans une forme de dignité le plus longtemps possible, ça veut dire ça. Dans les cuisines, dans les maisons dont les portes sont fermées, pour garder le chaud, pour garder le froid. Rester, tenir. Je crois que tenir, c'est vraiment un verbe cardinal dans ces villes-là, quoi. D'ailleurs, ces femmes ont tenu la place. Elles n'ont pas déserté, justement. L'exode rural étant ce qu'il est, et ça s'entend très bien dans les... Ne serait-ce que dans les courts fragments de textes qui accompagnent...
Les photographies d'Alexis.
Absolument. Ouais. Et ce sont les mots de ces femmes qui deviennent textes, qui font textes. Et pas seulement parce qu'ils sont enchâssés comme ils le sont dans ce livre. Et on entend... Oui, une ténacité à être qui m'émeut, mais indiciblement.
Et qui passe
définitivement.
Qui passe aussi, là, on l'entend dans la voix d'Alberte, par l'évocation de son propre corps.
Absolument.
Corps fatigué, qui lui permet de faire certaines tâches et pas d'autres. Quand je suis fatiguée, je ne fais que mes volailles et je ne fais plus rien d'autre. Pourtant, j'ai aimé que mes cuivres reluisent. Et dans le texte que vous signez pour ce livre, vous évoquez les corps et vous évoquez ce qu'on ne voit pas et ce qu'on devine. Les pieds dans des chaussons, certaines mains. Peut-être c'est intéressant que vous échangiez l'un et l'autre pour nous sur vous qui regardez ces images, est-ce que vous voyez des corps et vous qui les avez prises, Alexis Vettoretti, est-ce que vous avez vu de ces corps justement ?
Mais du coup, ce qui est drôle, ce qui est à retenir, c'est qu'en plus, si je ne me trompe pas, Marie-Hélène Lafont n'a pas vu vraiment les images, enfin, pas toutes les images.
Ah là,
voilà. En fait, le texte a été écrit sans que les images soient vues dans l'intégralité, etc. Moi, je lui ai demandé, je n'ai pas proposé, j'ai demandé, hein, j'étais très... je voulais, donc voilà.
Bah, elle a dit oui.
Elle a dit oui.
Une demande, vous savez, ça peut recueillir un non.
Bien sûr, tout à fait, mais en tout cas, je voulais absolument. Et donc, rapidement, j'ai proposé à envoyer les images pour qu'elle puisse les prendre, quoi. Et non, et très bien. De toute façon, il n'y avait pas de problème parce que moi, je voulais vraiment cette idée de la carte blanche, quoi. Et quand j'ai lu le texte, je me suis dit, mais non, elle a vu les images. Elle les a...
Mais j'en ai vu certaines, mais pas toutes.
Ouais, pas
et
toutes,
notamment,
ouais.
Parce qu'il y a les corps de ces femmes, il y a leur corps de bâtiment, c'est-à-dire les maisons dans lesquelles elles vivent.
Que vous photographiez aussi. Ouais.
Voilà, et il y a aussi quelques paysages que j'appelle corps des pays.
Ouais.
Donc, c'est de la matière, c'est du corps. Et quand j'ai vu ces femmes... Je n'ai pas eu envie d'en voir davantage. Je me suis dit, je vais essayer de tisser ce texte. Enfin, c'est un pléonasme, mais enfin, voilà. De l'écrire, de l'extraire dans ces silences. Voilà. Je ne veux pas en savoir plus. Et je disais à Alexis, a posteriori, quand j'ai vu le livre, heureusement
Pourquoi
que je n'avais pas leur voix dans l'oreille. Bah, j'eusse été extrêmement empêchée par leur voix, parce que leurs voix sont puissantes.
Ouais. On entendra tout à l'heure, on va lire un extrait, en effet, des textes que vous reportez au bas des images. Puisque vous parlez de tous tes corps et toutes tes matières, en parlant des corps des pays et des corps de ferme, en effet, ce ne sont pas que ces femmes que vous prenez en photo dans leur cuisine, mais aussi voilà, des paysages dans lesquels elles s'inscrivent et vivent. On a parlé des portes, mais parfois on a les bâtiments en entier. Pourquoi c'est important pour vous que ça aussi, ça vive dans la série ?
Moi, au départ, quand j'ai commencé cette série, je voulais une galerie de portraits. C'était, alors c'est un peu bizarre de parler de galerie de portraits quand on parle de ces femmes-là, etc. Mais c'est le terme. Je voulais faire que du portrait, un systématique, avec une rigueur dans la manière de faire, c'est-à-dire une distance, un cadre, très très technique,
très protocolaire,
très protocolaire. Et donc j'ai fait ces portraits, je les ai enchaînés, je les ai multipliés. Et au bout d'un moment, quand je me suis retrouvé au moment du fameux editing, donc de décider de ces photos, la place qu'elles doivent avoir dans la série, la chronologie qu'elles doivent prendre, et bien en fait, tous ces portraits-là, elles s'étouffaient les unes les autres. Elles étaient, parce que je crois, et je ne veux pas être prétentieux en disant ça, mais puissantes, parce que c'est des femmes qui ont une présence qui est énorme, et donc elles s'annulaient les unes entre elles, et ça devenait inaudible, on n'entendait plus leur voix. Et en fait, le fait de ramener, finalement, on me l'a souvent conseillé, j'ai toujours dit non, je veux faire que du portrait, j'ai pas écouté, et finalement je me suis trompé, je suis retourné dans toutes ces campagnes, j'ai fait des ambiances qui sont comme des virgules au milieu d'une phrase, quoi. C'est des moments de respiration.
Je reviens à cette question de décor. Donc, dans ce texte, qui n'est pas une illustration ni une réponse à votre série photographique, mais il est question du fait qu'on ne voit pas les pieds de ces femmes. Et Marie-Hélène Lafont devine, imagine, peut-être parce qu'elle en a écrit des pieds ou qu'elle en a vu, des pantoufles, des pieds, des chaussures, etc. Pourquoi ce choix-là, puisque vous parlez d'un truc très protocolaire, pourquoi couper leurs pieds à ces femmes ?
Il y avait... Je voulais une distance. Et j'aime pas les pieds. Je trouve que ça tombe mal. J'aime pas ça.
Ça tombe mal d'avoir les pieds.
Donc, esthétiquement, je préférais couper. Et en plus de ça, j'aime bien ce dessin de ces jambes qui tombent et qui ne sont pas... Voilà, où rien ne s'arrête, il ne s'est plus arrêté. Et il y a un truc comme un socle, quoi, qui viendrait asseoir comme ça. Et voilà, je voulais pas les arrêter avec leurs pieds, c'est un choix, et voilà.
Par contre, on voit leurs mains, évidemment, et il est souvent en question, voilà, des mains. Bah, vous parliez tout à l'heure de tout un monde du travail qui vous intéresse, un monde ouvrier, ici, du travail agricole. Ce qui est aussi intéressant, là encore une fois, on va pas faire une émission documentaire sur la place politique et sociale des femmes, mais en fait, pendant très longtemps, elles n'étaient pas reconnues comme étant des femmes qui travaillent, en fait. La question de leur travail n'était pas reconnue, Marie-Hélène Lafont. Pourquoi est-ce que l'existence de ces mains dans la photographie, on peut parler aussi du regard qui est très adressé à nous par le truchement de votre appareil photo, qu'est-ce que ça nous raconte là encore ?
Ces mains justement, et ces corps aussi, mais les mains tout particulièrement, les mains parce que de sur quoi elles sont nues les mains.
Ouais.
Ces femmes sont très vêtues, très habillées bien sûr. Même si elles sont dans leur cuisine, on a le sentiment qu'elles ont des vêtements qui sont des sortes de caparaçons. Alors elles ont les vêtements que l'on attend d'ailleurs, elles ont la blouse, etc. Mais la peau de leurs mains est nue, leurs mains sont nues et leurs mains et leur corps parlent du travail. On parlait de tenir tout à l'heure, vous dites elles sont puissantes parce qu'elles tiennent, elles se tiennent debout et elles ont énormément travaillé. Elles le disent et leur corps le disent avant elles.
Ouais.
Et les mains disent ça. Elles ont ces mains-là. Et pour certaines d'entre elles, d'ailleurs, si on les regarde de près, moi j'ai tendance à faire ça, j'ai presque envie de dire, elles ont des mains terribles.
Parce que, aussi avec, on sent de l'arthrite, enfin des mains qui sont très, très abîmées.
Ouais.
Vous dites, elles ont les habits qu'on attend. Peut-être ça, c'est intéressant quand même, Alexis Vettoretti, que vous nous parliez de ça, c'est-à-dire que vous avez un certain choix dans la représentation que vous faites du monde paysan. C'est-à-dire que ce sont des femmes âgées qui sont nées à un certain moment. Il y a aujourd'hui un autre monde paysan, un renouveau du monde paysan. Bon voilà, vous auriez très bien pu photographier des femmes de 30 ans, exactement, de 40 ans, habillées autrement. En effet, là, on sent qu'il y a quelque chose que vous cherchez à raconter d'une certaine frange des paysannes, entre guillemets.
C'est simplement cette génération-là. C'est celle qui est le pont entre leurs parents, qui ont eu une campagne pratiquement féodale, et l'industrialisation et la mécanisation.
Et l'arrivée des grosses machines.
L'arrivée des produits, des engrais et tout ça. Et donc, pourquoi elle? Parce que c'est vraiment le pont. Après elle, c'est une autre campagne qui s'est construite, qui s'est développée. Et aussi parce que sociologiquement, elles n'ont pas eu le choix. Alors, bien évidemment que les générations précédentes n'avaient pas le choix, mais les générations précédentes n'étaient plus là. Donc c'était elle qui était le témoin parfait pour raconter tout ça.
Et vous revenez à quelque chose dont vous dites que vous êtes intéressé par ça dans votre travail photographique, c'est la fatalité, quoi. Vraiment l'idée de la fatalité.
Exactement.
On va écouter un extrait d'une série documentaire toujours diffusée sur France Culture et signée Julie Navarre, justement sur la question de ne pas avoir le choix dans son destin de fille, petite fille née dans des fermes.
Je ne cherchais même pas parce que je savais très bien qu'il fallait qu'on aille travailler en campagne et puis voilà. On n'avait pas à dire on va aller à l'école pour être quoi que ce soit. Non, pas question.
Nous, on était soumis, en fait. On n'avait rien à dire. Moi, ce que je leur reproche, c'est qu'à l'époque où on était, c'était presque un déshonneur de placer un enfant dans un commerce. Alors que pour nous, ça aurait pu être une source d'apprentissage autre que de faire toujours des travaux qu'on connaissait de tous les jours. Et moi, c'est ce que j'aurais vraiment aimé faire, en fait. Et d'ailleurs, j'avais dit à un moment, j'ai dit, mais enfin, pourquoi tu veux absolument nous... D'accord, j'ai une sœur qui se marie, mais on n'a pas besoin de tant de monde à la maison. Mais... Les parents n'ont pas cédé.
Angèle, née en 1925 dans le Morbihan. J'ai fait ce métier parce que je n'ai pas eu le choix. Tout le monde n'a pas la chance d'être heureux. Michel, née en 1947 en Dordogne. Je voulais être couturière, mais mon père me faisait travailler au champ, car j'étais la plus costaude des trois. Thérèse, née en 1938 en Ardèche. Je ne me suis jamais marié. J'ai vécu dans cette ferme avec mon frère et sa femme. On a fait comme on a pu. Antoinette, née en 1935 en Haute-Loire. Quand je me suis marié, je ne voulais pas faire ça. J'aurais préféré aller à l'usine. Et mon fils, j'aurais aimé qu'il fasse autre chose. J'ai aimé ce travail par force. Yvonne, née en 1929 dans l'Allier. J'ai toujours vécu ici. Avec mon mari, on a eu 7 enfants. Aucun n'a repris la ferme.
Dans votre livre Paysanne, Alexis Vettoretti, donc il y a le texte de Marie-Hélène Lafont et puis il y a ce qu'évoquait tout à l'heure Marie-Hélène Lafont, c'est-à-dire des guillemets, des petites citations d'une conversation qu'on imagine que vous avez eue avec les femmes que vous avez photographiées. Ouais. Marie-Hélène Lafont disant que ça fait texte, quoi, que ses paroles font texte. C'est pour ça qu'on avait envie de le lire. Est-ce que l'idée d'un destin forcé ou de la fatalité que vous évoquiez tout à l'heure, c'est un penchant que vous êtes allé chercher? C'est parce que cette thématique vous intéressait ou c'est vraiment représentatif des conversations que vous avez eues avec ces femmes?
Je ne crois pas être allé le chercher parce que je l'ai découvert en les rencontrant. Donc, mais c'est sûr que c'est ce qui a fait que j'y ai donné 10 ans de ma vie, quoi. Pendant 10 ans, j'ai fait ces photographies-là, et c'est une des raisons.
Peut-être vous pouvez revenir, Marie-Hélène Lafont, à la fois sur cette idée de ne pas choisir son destin, mais aussi sur le fait que, en plus de ces photographies, voilà, qui nous attrapent l'œil, qui sont puissantes, il y a ces mots-là qui font texte. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, justement? Et peut-être vous pourriez nous dire aussi pourquoi vous avez décidé de mettre ces mots-là.
Faire texte, pour moi, ça veut dire sonner juste immédiatement. Et d'ailleurs, un effet d'écho très puissant entre ce que ce qui vient d'être lu et les deux documents
les
sonores
derrière,
que nous avons entendus, les archives.
Ouais.
Dans les archives, il y a l'accent en plus. Il y a ces R incroyablement roulants. Je crois que cette parole qu'on entend là, qui est dans le livre et que l'on vient d'entendre, elle est précise. Et elle a, du fait de sa précision et aussi du fait de la confiance qu'elle suppose, parce qu'il faut avoir une sorte de confiance pour dire ce que disent ces femmes, elle a du prix. Elle est précieuse.
Ouais.
Voilà. Et elle est aussi peut-être précieuse, il en était question tout à l'heure, parce qu'elle est rare. Voilà. Et en ce qui concerne la dimension du destin, ce qui m'a beaucoup frappée en voyant ces femmes, c'est que, évidemment, ce dont Alexis vient de dire qu'il l'a découvert en travaillant cette série pendant 10 ans, moi je ne l'ai pas découvert, je suis née dedans, j'ai toujours déjà su qu'il en était ainsi. Et le hasard de ma naissance, 1962 au lieu de 1937, qui est l'année de naissance de ma mère, c'est vraiment la génération de mes parents, ces femmes-là, et le hasard de ma naissance a fait que j'ai échappé à ça. C'est pas du tout un choix personnel. Hein. Mais en tout cas, il me semble que dans ce livre, il y a une échappée, justement, qui est que certaines de ces femmes disent, et je crois que c'est vrai, qu'aujourd'hui, on a le choix. Aujourd'hui, ils ont le choix. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. On peut faire autrement. On comprend bien que là, pour le coup, cette distribution entre les hommes et les femmes...
Elles en sont parfaitement conscientes.
Oui,
manifestement.
Complètement. Hein. Voilà, on sent bien que les termes de la distribution des rôles entre les hommes et les femmes ont changé aussi. Hein. 1946, 46% de la population française est paysanne. Aujourd'hui, moins de 2%. Mm. Donc, ce livre, il est exactement dans cette coulée-là.
Dont vous dites dans votre texte que c'est une force comme ça, à laquelle on ne peut pas échapper. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à ce qu'il y ait les mots de ces femmes, Alexis Vettoretti? Et en quoi est-ce qu'ils témoignent du moment que vous avez passé avec elles?
Donc, pendant le moment que j'ai passé avec toutes ces femmes, c'était d'abord, avant ou après le moment photographique, un moment de discussion, d'échange, et je notais ces phrases qu'elles me disaient, je notais plein d'informations les concernant, mais ces phrases surtout qui, à chaque rencontre, il y en avait une de phrases, un peu qui tombaient comme ça au milieu de la table et qui faisaient qu'elles résonnaient plus que le reste de ce qu'elles me racontaient. Ces phrases-là, pour moi, faisant des portraits, créant du coup volonté de créer ces rencontres entre elles, cette population-là et un public les regardant, eh ben, je trouvais que cette phrase-là, elle permettait de donner aussi le ton, le caractère de la personne qu'elles étaient en train de rencontrer au moment où elles les voyaient en photo. Quoi.
Par ailleurs, vous les situez géographiquement, vous donnez leur date de naissance, qui me semble assez important pour tout ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que selon qu'on est né, avant ou après telle date, on n'a pas vécu le même monde paysan. Vous inscrivez aussi dans un paysage en donnant la région dans laquelle vous avez pris la photographie. Donc, on sent qu'il y a aussi quelque chose, vous disiez au départ, mon désir était très protocolaire, mais il en reste des traces, parce qu'il y a un côté très inventaire aussi dans votre travail.
Bien sûr, il y a ce processus, et puis ça reste... alors je suis, encore une fois, je ne suis pas journaliste, je m'improvise photographe documentaire, parce que je n'ai pas la prétention d'être ce que je ne suis pas, mais l'empêche que là, il y a un côté très documentaire qui surgit, et donc la date de naissance et la région, c'était important parce que voilà, ça positionnait et surtout les gens qui... Moi, je trouvais ça chouette, si j'étais simplement regardant, d'aller chercher les gens de mon coin, ou « Ah ben, elle vient de là », etc. Enfin, il y a aussi un truc de se reconnaître.
Et puis, ça rappelle ce que vous disiez quand même, Marie-Hélène Lafont, c'est que, en fait, en parcourant votre livre, à un moment donné, on parcourt la France, et ça rappelle que l'histoire de la France, c'est celle-ci, France, c'est l'histoire du monde paysan, c'est
J'aurais pu me cantonner à une région, et dire que... Et y a tellement de gens à rencontrer, moi, ça a été toute ma frustration, c'est de passer à côté de 1000 rencontres. Mais par contre, voilà, il y avait le truc de faire... une carte de la France et de dire que finalement toutes les régions sont paysannes. Quoi.
On va écouter la voix de Delphine, auditrice du Book Club. Elle a la chance d'avoir votre livre entre les mains. Elle l'a parcouru, elle vous adresse des questions.
Bonjour Book Club, bonjour Marine Lafont, bonjour Alexis Vettoretti. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour la publication de ce magnifique ouvrage. J'aime ces visages marqués. J'aime les mains noueuses. Et j'aimerais savoir, à l'issue de cette série, de cette publication, quelle a été la réaction de ces femmes lorsqu'elles se sont vues, et quel lien peut-être entretenez-vous aujourd'hui ? Je serais très curieuse de savoir ce qu'il en est aujourd'hui.
Merci beaucoup Delphine pour ce message, pour cette question. Alexis Vettoretti, est-ce que vous avez pu montrer certaines photos aux personnes que vous avez photographiées ?
Alors j'ai envoyé les photographies à toutes les dames que j'ai photographiées. Après, j'ai pas eu tous les retours. Il est difficile de retourner chez ces dames-là. Mais en tout cas, j'ai eu quelques dames où j'ai emmené moi-même la photographie. Bon, bah, encore une fois, il y en a qui m'ont dit bah, « pas terrible la photo, je suis dur dessus et tout ça ». J'ai dit « bah oui ». Et d'autres qui étaient très émus, ouais, très émus parce que les moments photographiques sont rares, et dans ce milieu, et d'autant plus à leur âge où la solitude est quand même assez importante. Voilà, il y en a qui ont la chance d'avoir des familles, des enfants qui vivent à côté, pas très loin. Il y a souvent la ferme familiale et les enfants qui ont construit une petite maison pas très loin. Sauf qu'il y en a qui sont très seuls. Et donc c'est important, le moment photographique, notamment le premier portrait de Thérèse que j'ai rencontré en 2013, etc. Elle était seule dans sa ferme. Et le portrait, je crois qu'il a été un moment dur pour elle. Le moment photographique a été, je crois, dur pour elle. Mais en même temps, quand je lui ai ramené le portrait, elle était émue.
Vous avez, vous travaillez, Marie-Hélène Lafont, sur des fonds photographiques. Et je trouve ça assez beau ce que vous dites, Alexis Vettoretti, l'idée que de la rareté photographique, c'est aussi une caractéristique du monde paysan. Vous le disiez, c'est peu de photographies et parfois pas de photographies. Qu'est-ce que ça vous a fait, après, d'avoir accès à cette série-là, contemporaine, différente des photographies sur lesquelles vous avez pu travailler ?
Il y avait un effet d'écho,
quand
un
même.
Effet de reconnaissance, ouais. De l'émotion évidemment, et la proposition qui m'était faite, à un moment où j'étais comme une cocotte minute, mais je me suis dit, il faut trouver du temps là, il faut arracher du temps, ça tu dois le faire parce que ça a tellement de sens par rapport à tout ce que j'écris depuis 25 ouais. ans, c'était totalement incontournable. Et la question de notre auditrice,
ah, oui,
je
Delphine.
L'ai posée moi aussi à Alexis,
ouais.
notamment parce que ces dames, elles ne sont pas apprêtées du tout.
Ouais.
Quand il y a des moments photographiques dans ces vies, dans ces milieux-là, c'est le jour de la communion, c'est le jour du mariage, on est apprêté, on n'est pas là avec ses torchons et sa vieille blouse. Et je me suis dit...
Vraie question, en effet, par ailleurs.
Oui, totalement.
Oui,
C'était une demande que vous leur avez faite ?
Non, parce qu'en vrai, pour la plupart, certaines, je revenais, elles me demandaient de revenir le lendemain, ou elles n'avaient pas le temps, elles voulaient réfléchir. La plupart, le moment photographique s'est fait au moment de la rencontre. Donc elles n'ont ni eu le temps d'organiser, il n'y a pas de... Rien n'est organisé, c'est pas... Rien n'est produit, quoi. On fait la photo et puis voilà.
Mais elles ne vous ont pas dit je vais
laissez-moi un quart d'heure, j'aimerais bien mettre autre chose.
Non, il y a eu quelques mains dans les cheveux, des peignes sortis à un moment, mais non, c'était pas le sujet.
Okay.
Certaines m'ont dit, on revient.
Parce que ça véhicule aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a, ça ouais, veut dire qu'à ce moment-là, elles sont pas forcément totalement en maîtrise de leur image.
Ben, c'est ça le but aussi.
D'accord.
Malheureusement, je ne peux pas, moi, en tant que photographe, permettre qu'on m'enlève le résultat. Et le résultat, c'est de montrer une vérité totale, celle de...
Bon, à considérer que c'est celle-ci la vérité de ces femmes. Après tout, elles ne seraient pas forcément la vérité
dans
un baptême ou dans un mariage,
non.
Où elles seraient apprêtées.
Sauf que c'est plus exceptionnel. Là, la vérité, elle est quotidienne. C'est une vérité du quotidien. Et moi, c'est ça que je venais photographier. C'est une vérité du quotidien. Je ne voulais pas que ce soit construit, drapé. Voilà. Il ne fallait pas que les choses soient drapées. Sinon, il y a une forme de mensonge pendant un événement familial, que ce soit un baptême, une communion ou je ne sais quel autre événement.
C'est autre chose.
Ce n'est pas. Ouais, moi j'estime que c'est un mariage, tout ça, ce sont des mensonges, c'est un mensonge social.
On se tend à soi-même un autre miroir qui fait du bien peut-être.
Qui fait du bien.
Qui leur fait du bien aussi. D'ailleurs, il y en a des photos bien comme sûr. Ça. On en voit sur certains guéridons.
Exactement. Et donc, il fallait le montrer aussi, mais différemment. Et là, le propos, il était de les montrer, elles, mais aussi dans leur quotidien, dans leur force, et aussi dans cette réalité, dans cette fragilité, dans cette... Tout ça, en fait, il fallait que tout s'entrechoque. Et donc, mentir sur leur aspect vestimentaire, les maquiller, etc., ça aurait été, à mon avis, je crois, très délicat. Et l'équilibrisme, il était bizarre, du coup.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, dans le Book Club, le mardi, on vous retrouve. Nicole Vulser, vous éclairez pour nous toute l'année les aspects économiques du monde des livres. Bonjour Nicole.
Bonjour Marie.
En ce dernier jour de l'année, vous avez regardé un petit peu en dehors de la France et vous voulez vous intéresser au sort des librairies francophones à l'étranger.
Nous voici précisément au cœur d'un paradoxe. Les librairies françaises installées à l'étranger incarnent mieux que quiconque le soft power tricolore et font vivre au quotidien les valeurs de la francophonie. Et pourtant, une conjonction inextricable de difficultés plombe la viabilité de cette bonne centaine d'entrepreneurs situés à Sao Paulo, à Rome, au Caire, à Buenos Aires ou encore à Kew East en Australie. Ils résistent comme des petits fanaux français implantés aux quatre coins de la planisphère, mais rien n'est simple pour eux. Les principales difficultés viennent surtout des délais trop importants pour recevoir un ouvrage. En Allemagne, il faut patienter plus de 10 jours pour mettre en vitrine un nouveau livre. Thibaut Diebeyev, libraire de Maison Petit Renard à Tokyo, m'expliquait qu'il lui fallait entre 2 et 5 semaines pour recevoir un livre commandé à un éditeur français. Avec de tels délais, difficile de résister à la concurrence. Sans surprise, bon nombre d'expatriés ont tendance à commander sur les plateformes comme Amazon ou encore Lyreka, la start-up qui vend des livres français aux expatriés en s'alignant sur les prix pratiqués par Amazon. Là, les clients sont à la fois servis plus vite et surtout paient moins cher qu'en boutique. Un attrait assez inexorable.
Mais justement, pourquoi moins cher qu'en boutique? Pourquoi est-ce que les librairies francophones font payer les livres français plus cher qu'à Paris?
D'abord, il faut savoir que le prix unique du livre, qui a permis en France d'avoir un maillage exceptionnel de librairies indépendantes, ne s'applique pas hors de nos frontières. Les libraires vendent plus cher pour rentrer dans leurs frais. On leur fait payer le transport des livres bien plus cher que leurs confrères hexagonaux. Ils doivent s'acquitter de frais d'emballage des ouvrages et certains éditeurs comme Hachette leur font aussi payer une taxe à l'export de 5,5%. Installée à Londres, Isabelle Le Marchand, la présidente de l'Association internationale des librairies francophones, ne cache pas qu'un livre vendu à l'étranger coûte, selon les pays, entre 10 et 25% plus cher qu'à Paris. Certes, la librairie à l'étranger peut augmenter ses prix, mais pas trop, au risque de se tirer une balle dans le pied et de perdre sa clientèle.
Est-ce que ça va jusqu'à des risques de fermeture de ces librairies, Nicole ?
Hélas, oui, Marie. Confrontées à des problèmes économiques insolubles, certaines ont dû se résoudre à mettre la clé sous la porte. C'est le cas de Vice Versa à Jérusalem, de La Joie de Vivre en plein cœur de Manhattan à New York, de la librairie Antoine située dans les Souks à Beyrouth, de la librairie San José au Costa Rica, mais aussi, voici 2 ans, d'Omeisha à Tokyo. C'est une économie qui reste fragile parce qu'elle est liée aux devises, aux fluctuations des charges et aussi à l'inflation. Ce n'est pas rien en Argentine où elle atteint plus de 100% en un an. Bien évidemment, l'actualité politique touche de plein fouet ces librairies. Leur sort est devenu épouvantable aujourd'hui à Beyrouth ou à Haïti, mais aussi de plus en plus compliqué au Niger ou en Algérie. De façon peu prévisible au Mexique, par exemple, c'est la toute récente loi qui taxe tous les produits culturels à hauteur de 50% qui va impacter très durement la librairie française de Mexico.
Bon, on est le 31 décembre, Nicole, et moi j'ai quand même un petit côté assez optimiste dans la vie, donc je veux que vous m'annonciez quelques nouvelles encourageantes pour l'année 2025 qui va arriver.
C'est promis, Marie. D'abord, le projet baptisé l'Europe des librairies indépendantes s'est mis en place grâce à des fonds européens. 6 librairies partenaires ont accueilli 3 auteurs francophones, la Camerounaise Leonora Miano, le Français Bertrand Guetta et la Roumaine Alexandra Badea. Autre avancée, le ministère des Affaires étrangères sensibilise désormais ceux qui partent en poste à l'étranger à l'intérêt des librairies françaises et leur suggère d'y passer leurs commandes de livres destinés aux lycées français. Certains éditeurs font des efforts. Gallimard a consenti des prix plus bas qu'en France pour vendre les ouvrages de Leïla Slimani au Maroc. Signalons aussi la coédition entre Philippe Rey et l'éditeur sénégalais Jim San pour La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bougarsar, une pratique désormais encouragée financièrement par le Centre national de la librairie. Et puis parlons d'une renaissance, celle de la librairie de l'Institut français de Tokyo, où était située Omeisha. Depuis octobre, Shigeru Kashima, un professeur de littérature française, y a ouvert avec son fils une librairie baptisée Passage, dans laquelle il loue des étagères à des particuliers, des universitaires, des petites maisons d'édition. Maison Renard y vend aussi des BD en langue française. Tous proposent des choix éclectiques, non dictés par des algorithmes. Ils paient 30 euros l'étagère par mois et ça marche. Le week-end, le magasin ressemble à une boîte de nuit bondée de jeunes clients de 15 à 30 ans.
Et ben voilà, ça c'est les bonnes nouvelles comme on les aime. Merci beaucoup Nicole Vulser, économie du livre à réécouter sur la page du Book Club franceculture.fr. Et à cette heure-ci dans le Book Club, on joue au grand jeu des pages musicales. L'idée, c'est d'aller chercher l'évocation de la musique dans les textes. On propose à nos auditeurs et auditrices de jouer avec nous à ce jeu. Et puis parfois, on joue tout seul. Et pour terminer ce Book Club, on a été chercher un texte que vous avez publié chez Gallimard qui s'appelle Chantier, Marie-Hélène Lafon, où vous parlez du travail d'écriture et où il est question d'un travail d'écriture rapproché du travail notamment de l'établi. C'est donc avec un extrait de ce texte qu'on se quitte. Ma place est à l'établi, où ça fermente, où je fomente. Je fomente et ça fermente. C'est long, c'est patient, c'est têtu, ça me traverse, c'est opaque et bouleversant, opaque et éclatant à la fois. Ce qui m'éclate dans le cœur, dans le corps et à la gueule, ce que je vois et ne peux pas ne pas voir, c'est ce que je fomente et que j'usurpe. D'un même geste, politique et sexuel, c'est un seul et même geste, j'usurpe. Je peux usurper et fomenter parce que née fille de paysan dans le Cantal en 1962 et pas en 1898 ou en 1927 ou pis encore en 1763, je dois et peux, devoir et pouvoir ne se séparant pas, je dois et peux partir et étudier. Partir et étudier ne se séparant pas davantage. J'ai pu et j'ai dû, je suis partie et j'ai étudié. Ensuite, j'ai écrit, j'en ai écrit, j'écris. Bach est le grand maître des musiques d'établi. Avec sa cantate faste et forcenée, son clavier bien tempéré et les variations Goldberg par Glenn Gould éperdument. Mais il n'est pas seul sur le front. Le flanque dans le dédale de mes chantiers, Beethoven, et ses dernières sonates où le quatuor à cordes, opus 74, dit les harpes, les trios ou le voyage d'hiver de Schubert et trois ou quatre chansons magistrales de Bachung.
Bijou, bijou, te réveille pas surtout. Je vais pas faire de bruit, juste un café, c'est tout. Je peux plus rester ici, je dormirai, je sais pas où. Oh. Ça pourrit tout. Les cheveux dans le lavabo, les mégots écrasés n'importe où. Puis tu prends ton bain avec de drôles de joujou. Oh.
Merci beaucoup, Alexis Vettoretti, d'avoir été avec nous pour évoquer votre livre « Paysanne » paru aux éditions Ulmer. Merci beaucoup, Marie-Hélène Lafont, d'avoir été avec nous. Ouais, franchement, quelle merveille. Vous signez un texte qui s'appelle « Je les reconnais » dans ce livre-là paru aux éditions Ulmer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Au son aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson. À la réalisation, c'était June Loper. Et c'est comme ça, et c'est beau, qu'on termine l'année 2024 avec vous.
Bijou, bijou, pense à tes rendez-vous. Rappeler le gynéco, passer à la banque, prendre des sous. Trouver quelqu'un.